Émission Langeur sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est présentement 13h15. Évidemment, c'est le retour de Gravel qui nous suit de 14h à 18h avec Denis Véro et Audrey. Et on a également, je vous le rappelle, un spécial chill, rock and chill en fin de semaine pour l'Action de grâce samedi, dimanche et lundi. Vous aurez le droit à la meilleure musique, mais un petit peu plus relax, donc la meilleure musique acoustique. Évidemment, ça sera pas juste de l'acoustique, mais il va en avoir comparativement habituellement. Il y en a seulement le matin, les samedis et dimanches de 7h à 10h avec l'excellente Audrey Pinchot. Mathias, circulation?
Oui, ça vient tout juste de rentrer. Il y a un accident sur Capitale direction ouest à hauteur de 1ère avenue. La voie de gauche est présentement fermée, donc un ralentissement qui commence à se créer dans le coin. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
13h16, on s'en va rejoindre notre excellent chroniqueur à Montréal. Il est animateur au niveau du 99.5 du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis matins de 8h à 10h. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Ça va super bien, les gars, vous deux.
Ouais, je suis attends une minute, Rémi. Là, tu as dit 100% des mots en français? T'es
oui,
meilleur que Mark Carney!
Woohoo! Oui, je suis capable que ça. Ben, Radio-Canada... nous arrive avec quelque chose
qui
a surpris personne.
Ben non, ça a surpris personne. Écoute, Marc a de la misère à faire une phrase en français, donc je suis pas surpris qu'il jase seulement à 17% en français. Là.
Il faut rappeler que c'est Mark Carney, c'est pas Marc Carney.
Ouais, c'est ça, exactement. Mark.
Je pense qu'il y a une couple de Québécois aux dernières élections qui se sont laissés berner par le prénom de M. Carney.
Ben, tu penses, mais non, il n'est pas passé fort au Québec. Qu'est-ce que tu fais dire ça?
Rien pantoute. Écoute, je suis complètement dans les patates. Mais ouais, ils ont calculé, et d'ailleurs, on peut leur soupçonner de la maladie mentale à ces journalistes-là d'avoir fait cet exercice-là, de calculer le nombre de minutes qu'il a consacré en français. Mais moi, je trouve que c'est très important comme exercice.
Oui, vraiment.
On se rend compte que 17% seulement du contenu des discours du premier ministre du Canada, un pays officiellement bilingue, sont en français. Ouais. Puis ce sont ses discours devant les journalistes, mais c'est aussi les discours qu'il prononce à l'étranger, là où il y a moins de journalistes du Canada, et là où je pense le naturel revient au galop. Parce que 17%, c'est la grosse moyenne, mais quand il est à l'extérieur du pays, je pense que ça descend à 13%.
Okay.
Donc là, 13%, là, hey, on est comme... c'est 13 secondes sur chaque 100 secondes.
Oui, okay? Ben, dans le fond, 13%, c'est juste pour le journaliste de Radio-Can qui l'a suivi ou le correspondant à l'étranger de Radio-Canada francophone. Parce que sinon, à moins qu'il soit en France, il ne parlera pas en français dans ses discours.
Alors que Stephen Harper le faisait. Stephen Harper, premier ministre du Canada de 2006 à 2015, lui, il parlait en français. Il prenait toujours la parole en français, peu importe où il était dans le monde. Il était en Chine, il parlait en français. Il était en Russie, il parlait en français. Hein, il fut un temps où on pouvait aller en Chine et en Russie.
Ouais.
Du Canada. Je vous ramène assez loin. Mais c'est parce que je vous ramène là aussi, parce que c'est un autre monde. Je pense que le Canada... retrouve un petit peu ses vieilles pantoufles. C'est un pays qui, par moments dans son histoire, se sacre comme du monde du français. Ça ressemble beaucoup aux bonnes vieilles années d'un Johnny McDonald au début du 19e siècle, là. Enfin, fin du 19e plutôt, au début de la Confédération. Le français, c'est vraiment pas important. C'est écrit sur le papier puis sur sur l'acte de l'Amérique du Nord britannique que c'est une langue officielle, mais bon.
Oui, puis c'est d'autant plus décevant, Rémi, puis je suis certain que tu vas être d'accord avec moi, que c'est l'héritage de deux francophones, ça. Pierre-Éliott Trudeau et Justin Trudeau.
Oui, tout à fait. Sauf que ce pays-là n'a jamais fonctionné de façon tout à fait sincère. Hein? Le français, ça a toujours été... Regardez Mary Simon. On court après son français. Ça y coûte des dizaines de milliers de dollars. Elle n'y arrive pas. Puis au final, on va finir par se satisfaire d'un petit progrès si elle est au moins capable de nous en offrir un. Mais dans un monde normal, s'il y a deux langues officielles, ben c'est 50-50. C'est pas... 17%, 83% français. Dans un monde normal, les francophones du Nouveau-Brunswick constituent 30% du pays, de la province, auraient un premier ministre qui parlait français dès son arrivée au pouvoir, parce que ce n'était pas le cas. Il ne parlait pas français, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui a fini par apprendre un petit peu. En Ontario, Doug Ford, il ne parle pas français, jamais. Là. Il ne parle pas français du tout. Il y a pourtant des dizaines et des dizaines de milliers, si ce n'est pas plus de 100 000 francophones.
En effet. Surtout dans la région d'Ottawa, en plus.
Tout à fait. Donc, je pense qu'on peut être choqué. Moi, j'apprends ça ce matin, je me dis, bon, c'est choquant. Franchement, il nous rit d'en face. Il n'a pas du tout appris. Hey, rappelons-nous quand même quand il était là, tout le monde en parle, puis c'était l'entrevue la plus mise en scène que j'avais bien pu voir, à tout le monde en parle. Le gars, il est arrivé, première question, parce qu'on a toujours un plus d'énergie au début, hein.
Oui.
Question, c'est connaissez-vous un peu la culture québécoise?
Hein?
Oui, j'écoute mes aïeux. C'est bien, t'écoutes mes aïeux. Écoute pas mes aïeux, Mark Carney, franchement, là.
Ben voyons
pas
donc. Il chante pas ton arrière-grand-père. Non, crime de mort.
Ah, c'est pas en tout, moi.
Mais ce que ça nous démontre, là, puis là, tu sais, je veux pas faire une montée souverainiste ici sur les ondes de Boulevard 101, mais ce que ça nous démontre, là, c'est que en campagne électorale, pour aller chercher des votes au Québec, n'importe quel parti, et surtout le Parti libéral du Canada, va tellement être gentil avec le Québec. Mais une fois qu'ils sont rendus au pouvoir, ils s'en sacquent bien raide du Québec.
Oui, mais tu sais, je veux pas forcément qu'on reparle de cette élection-là parce que c'est derrière nous. Puis il y a bien des affaires qui nous attendent, mais ça m'échappe quand même encore à ce jour le fait qu'un homme qui était à peine capable de coller 10 mots d'affilée sans s'enfarger 4 fois a réussi à attirer la sympathie des
Ouais.
Québécois, à gagner leur cœur. Parce que tu dis, Jeff, ils sont gentils pendant les élections, puis après, ils s'en fichent. Ben, jusqu'à quel point ils ont été gentils durant les élections, les
Ben, t'as
libéraux?
raison. Ils ont plus joué la carte de peur, Donald Trump, le CV, l'économiste Carney. Mais là, à part s'asseoir dans le bureau de la Maison-Blanche comme cette semaine, puis faire des petites blagues avec Donald Trump, il n'y a pas beaucoup de résultats.
Non, il n'y a rien. Puis d'ailleurs, c'est assez fascinant d'en voir certains qui sont méga impressionnés par ce qui s'est passé. Il s'est
Ouais.
rien passé, la gang, là.
Non, il
Ces
s'est rien
états-là,
passé.
là.
C'est juste passé 2-3 jokes, puis Donald Trump a parlé à 98% du temps. Donc, Mark Carney a eu seulement 2% du temps. C'est moins que ce qu'il parle en français, qui est
Bien
déjà
vu.
minime.
Alors, ben ça, le monde qui sont impressionnés par la performance de Mark Carney à Ottawa, c'est le même monde que quand tu t'en vas au même party qu'eux autres, puis que tu t'es pas amusé pendant tout, il ne s'est rien passé. Eux autres, ils racontent là, au lendemain au bureau. Hey,
Oui!
c'était le
Ah
fait
oui!
longtemps qu'on s'était vu. Hey, on a écouté de la musique, on s'est couché aux petites heures, on est rentré à 9 h le soir.
Non, c'est ça. J'adore Rémi Villemot. Hey, Rémi, parlant d'organisation, que de la difficulté à aller chercher justement des réalisations. Santé Québec. Santé Québec, ça va pas bien. On a mis sur pause Santé numérique. On comprend pas trop à quoi ça sert. Et là, voilà que Santé Québec refuse de rendre public les sommes versées en indemnité de départ aux hauts dirigeants remerciés depuis sa création, y compris celles versées à son ancien numéro 2, Frédéric Abergel. Rémi Crime, attends une minute, je fouille dans mes poches. Ah ouais, c'est mes poches qui payent Santé Québec. Pourquoi je sais pas ce qu'on fait avec mon argent?
Ah, mais écoute, c'est un scandale, là. Avec un gros S majuscule, un gros C, puis on continue jusqu'au E à la fin.
Ah oui,
C'est
t'es en
un
majuscule.
scandale.
Tu sais, quand t'écris à quelqu'un en lettres majuscules pour lui montrer que t'es fâché, là, ben c'est ça,
Ouais.
scandale. Mais là, il est vraiment en grosse, grosse lettre puis en caractère gras.
Ou sinon, si t'es comme Jacques Gourde, le député conservateur qui crie c'est un scandale. Écoutez, non, mais c'en est un parce que quand une entreprise privée qui fait affaire avec le gouvernement. Santé Québec, ce n'est pas le cas, là. Une entreprise privée, OK, fait affaire avec le gouvernement, et là, hop, ça fait faillite, hop, OK, il y avait de l'argent du gouvernement là-dedans, oh, l'entreprise a payé des indemnités de départ. En soi, on a toujours l'impression de s'être fait fourrer, mais c'est une entreprise privée. Ça les concerne, ça les regarde, ils ont des CA, ils ont des chartes de fonctionnement, ça les concerne. Là, c'est le gouvernement du Québec. Ce sont des fonctionnaires à qui on a dit ça ne marchera pas, OK, on ne s'entend pas bien avec Mme Biron, ou tu sais, OK, on va revoir à la baisse nos attentes, il y a trop de monde dans l'arbre. Vous en allez, on vous donne, OK, on va vous payer, là, vous étiez payé 400 000 $ par année, mais on va vous payer encore plus parce qu'on comprend, tu sais, vous auriez resté à telle autre place, vous avez accepté un nouveau défi. On veut le savoir, c'est notre argent, c'est à nous, là. C'est pas l'argent qu'on donne à une entreprise privée une fois de temps en temps quand on achète un de ses produits puis c'est coté en bourse. C'est le gouvernement du Québec, c'est l'argent. Ça devrait être interdit de rendre ça pas public. Ça devrait être, tout le monde devrait avoir affaire à ça. Là, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec essaie d'accéder à l'information, se fait dire que ça ne marche pas. Même eux autres, là, sont comme, c'est pas normal, là. C'est assez inédit, là. D'habitude, on a accès à ces informations-là. Donc là, pour une fois, je suis d'accord. Pour une fois, là, écoutez-moi bien, là, c'est assez
Vas-y.
rare. Mais pour une fois, je suis d'accord avec Québec solidaire parce que Vincent Marissal est sorti sur la place publique. C'est son genre de dossier, puis il a dit, c'est l'État dans l'État.
Oui,
En
vraiment.
voulant dire. T'sais, puis pourtant, Québec solidaire, s'il y a bien un parti qui n'a pas de problème avec la bureaucratie puis la taille de l'État tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est bien eux. Mais là, ils ont dit ça n'a pas d'allure, là. T'sais, quand l'État est tellement rendu gros, costaud, corpulent, Ben là, c'est rendu que quand il cherche d'informations entre ses 8000 bourrelets, lui-même, il est plus capable de trouver. Mais là, ça va faire. Là. Ça va faire se foutre du monde comme ça, là.
Exactement. Puis Rémi, si c'était le ministère de la Santé, s'il n'y avait pas de Santé Québec, est-ce qu'on serait obligé de les rendre publics, justement? Est-ce que la loi d'accès à l'information nous permettrait d'avoir tous ces chiffres ou pourrait le caviarder également?
Écoute, là, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question-là. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec disait ce matin, c'est assez rare qu'on se bute à un tel silence, à un tel, voyons, c'est un labyrinthe, là, accéder à ces informations-là. Donc, je pense qu'habituellement, on a le droit, il y a un accès à l'information, il y a une transparence, mais c'est ça qui arrive quand une grosse bébite accouche d'une autre grosse bébite. C'est qu'à un moment donné, c'est rendu compliqué, là. Les règles changent, l'univers. Santé Québec s'est présenté souvent comme une façon de réduire la taille de l'État. Tu te dis, mais c'est une autre
Ben
bébite de
oui,
l'État.
c'est un autre
C'est pas
organigramme, ça réduit rien, là.
Non, puis on voit bien que ça s'est pris avec les mêmes mauvaises habitudes, avec les mêmes processus. Hein. On garde ça, c'est pas. C'est la culture du silence. C'est la
Ouais.
culture du silence. Puis écoutez, il y a nous, il y a les mandarins de l'État et il y a le peuple. Il faudrait quand même pas que le peuple sache jusqu'à quel point on l'a fourré.
Non, en effet, Kim qui écrit, on dirait que les gouvernements s'arrangent pour qu'on les déteste. Il n'y a pas une journée où j'ai pas l'impression de me faire avoir par ces gens-là. Puis c'est vrai, c'est totalement enrageant ce qui se passe. Il y a un auditeur ce matin qui m'écrivait puis il me disait, hey Jeff, c'est parce que le 50 000 de prime là, Frédéric Habergel, qu'on sait, il y avait un salaire de 344 000 puis une prime d'à peu près 53 000 $ là pour changement justement d'institution parce qu'il était directeur du CHU à Montréal, je ne me trompe pas, ben c'est mon salaire annuel. Fait que c'est ça qui est fou.
Non, 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 c'est pas du monde qui gagne des peanuts, là. Puis en passant, ils gagnent non seulement dans ces chiffres, puis c'est pas 100 000, c'est pas 200 000, c'est 300-400, mais c'est des gros fonds de pension.
Oui.
Puis c'est le rythme de travail qu'on connaît dans l'État du Québec, dans la bureaucratie, puis dans la fonction publique. C'est-à-dire, c'est pas un rythme inarrêtable et une cadence chevronnée, là. OK? Quand c'est férié, c'est férié. Quand c'est 5 heures, c'est 5 heures. OK? On va se dire la vérité, là. Il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont en fonction publique, puis ils le savent, puis c'est correct, puis je les respecte. On a besoin d'eux. Mais les big boss en haut, d'accord? Eux autres, on veut savoir combien ils font, puis avec combien ils s'en vont, surtout.
Exactement. Rémi Villemur, c'est toujours un plaisir de te parler à chaque mardi et jeudi. Je te souhaite un excellent long week-end. Il annonce beau à Québec, il annonce beau à Montréal également.
Il annonce beau jusqu'à lundi. Fait
Ouais,
qu'on va être
même
chanceux.
chose pour nous autres aussi.
Oui, exactement. On va être très chanceux.
Excellent. Alors, profites-en, mon ami, tu travailles assez fort. Puis on se reparle le mardi prochain avec un immense plaisir. Et je termine en vous disant que la campagne électorale ici à Québec est passionnante pour les municipales. Alors, j'espère qu'à Montréal, le feu va prendre un jour.
Aucun commentaire.
Salut,
Bye-bye, mon
Rémi.
cher
Salut.
Richard.
Rémi Villemouche, je sais très bien ce qui se passe dans la campagne électorale à Montréal. C'est un paquet de gauchistes qui s'affrontent pour savoir qui va faire le plus de pistes cyclables. C'est aussi simple que cela. Mathias, après la pause, on va avoir une personne de Québec Destination Cité, d'accord? Et je t'explique pourquoi. C'est fort simple. C'est que ce matin, dans Marceau le matin, on a reçu Maxime Lapointe, un avocat spécialiste en immigration. Et voici ce que Maxime Lapointe nous a dit concernant Québec Destination Cité.
Mais actuellement, le gouvernement, la ville de Québec, pardon, Québec International, Québec en tête, sont au Brésil pour recruter des travailleurs étrangers. Donc, on dépense des fonds publics. Puis de l'autre côté, on crie qu'il y a trop d'immigrants. Donc, ça, c'est une chose. Je créerais
hey,
le
ça
programme.
M'intéresse ce que vous dites là, par exemple. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la ville de Québec travaille à contre-courant du gouvernement de la CAQ en matière d'immigration. Donc, les 18 et 19 octobre prochains, Québec Destination Cité sera au Brésil pour aller chercher des travailleurs. Et la question que je vais avoir pour Marie-Josée Chouinard, qui est vice-présidente de talents internationaux et investissements étrangers, est-ce encore pertinent de le faire avec le fait qu'on réduit les seuils d'immigration du côté du gouvernement du Québec?
Je pense que la question, elle se pose parce que, prenant en compte les nouveaux seuils d'immigration du Québec, même si tu t'en vas recruter des personnes, des travailleurs étrangers, est-ce que tu vas avoir le droit qu'ils viennent? C'est ça la question qui se pose. Est-ce que le seuil va être suffisant du côté de la CAQ pour que tu puisses dire, hey, vous êtes intéressé à venir travailler? Ben, venez travailler ou au final. Ils vont être intéressés, mais tu vas dire, ah, finalement, le seuil ne le permet pas. Je pense que c'est quand même une piste qui vaut la peine d'être explorée.
Exactement. Et comme ici à l'émission, on en jase et surtout toute la programmation de Boulevard 102. On aime vous démontrer les deux côtés de la médaille pour que vous fassiez, oui, oui, c'est ici que vous pouvez faire votre propre opinion. Eh bien, c'est justement ce qu'on va faire. On va donner la parole à Québec Destination Cité via Marie-Josée Chouinard. Après cette courte pause, vous êtes à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.